J'aime bien passer, quoi. J'aime bien passer vite, en fait. Passer vite, voir, passer vite, et puis hop, revenir de temps en temps. Je trouve avec grand plaisir des traces laissées par moi quand j'étais lycéen et qu'on allait dans les caves. On avait ce qu'on appelait un local à l'époque et qui pouvait se déplacer en fonction des moments où on était découvert par les propriétaires, parce qu'évidemment, lycéens, on faisait un peu de boxon et on se faisait facilement repérer. Je parle pas de bordel la nuit, hein, je parle en journée, faire du bruit alors que là, il devrait pas y en avoir, en fait. Donc les propriétaires ouvraient l'œil et parfois on s'est fait sortir de certaines caves. Voilà, et je retrouve ces lieux-là, en fait. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je les retrouve, puisque c'est maintenant 30 ans après, quasiment, quoi. 28, 29 ans après. En fait, j'ai même commencé avant, c'est une histoire que je raconte volontiers, ça, parce que j'étais scout de France, en fait, ici, moi, à Clermont-Ferrand. Et donc, c'était du scoutisme citadin. Et nos chefs nous invitaient volontiers à aller voir, à aller pousser les portes cochères, en fait, de toute la butte de la cathédrale. Et du coup, c'était un scoutisme. Donc, ils cultivaient notre curiosité à découvrir Clermont, en fait. On faisait plein de grands jeux les samedis dans Clermont-Ferrand, quoi. Je pense que les gens devaient nous voir courir, là, avec nos shorts et nos chemises colorées dans Clermont. Et on allait voir les portes cochères. À l'époque, c'était beaucoup moins fermé que ça l'est maintenant. Et le sentiment de propriété, peut-être moins. Et puis, il y avait peut-être moins de dégradation, quoi. Et donc, l'accès aux caves et aux cours intérieurs de la rue des Chaustiers, des rues derrière le cours Sablon, là, entre le cours Sablon et la rue Pascal, était beaucoup plus ouverte. Et on découvrait comme ça des lieux magiques. Alors, à l'époque, on mesurait pas ce côté magique. Le côté magique s'installe lorsqu'on vieillit, lorsqu'on grandit. Et lorsque justement ces lieux deviennent à peu près fermés. Mais à l'époque, on y jouait déjà beaucoup. Et donc je pense que ça me vient de là, oui, cette curiosité pour les balades en ville, les balades underground, interdites, on appelle ça comme on veut. Et puis après, il est poussé l'idée, je pense que ça c'est une idée plutôt libertaire, qu'en fait des lieux... creusé par l'homme, fait par l'homme, désigné pour l'homme et rendu inaccessible, je trouve ça pas normal, en fait, quoi. Je suis pas contre le sentiment de propriété, je veux dire, chez soi, dans un appartement, pas de problème, mais enfin, des lieux en aérien ou en souterrain appartiennent à tout le monde, quoi. C'est comme l'idée de vouloir interdire le pariou aux marcheurs, quoi, parce que ça appartient à des gens, non, quoi. Donc, non. Donc, les endroits où on peut aller, fait par l'homme pour l'homme, ben, on essaie d'y aller, j'essaie d'y aller, ouais. J'y vais. Ça me questionne, je vais voir, voilà, c'est un principe de base. J'essaie de maintenir le parc d'endroits, enfin le volume d'endroits que je connais, que je fréquente, ouvert et accessible au moins pour moi, en fait. Voilà. Alors c'est pas encore une fois un sentiment d'appropriation, hein, mais je veux pouvoir m'y promener comme je veux, y amener des gens si nécessaire, si j'ai envie. C'est gênant, je trouve, d'abandonner des lieux comme ça à la désaffection absolue, quoi. C'est le cas des caves. Alors les caves, c'est un peu particulier parce qu'on le voit, tu vois, ça fait une demi-heure qu'on est dans cette cave. Et il fait pas très chaud, c'est humide, on n'est pas super bien, quoi. Donc on peut pas y vivre, en fait, là-dedans. Mais il y a des lieux comme ça en surface qui seraient simplement hors d'eau, c'est-à-dire que les toitures seraient revisitées et puis les vitres correctement mises. On pourrait y vivre, quoi. Alors je parle pas d'y habiter, je parle simplement de le faire vivre la journée, quoi, d'y faire quelque chose. Comme je fracture plus rien du tout et que je choisis de rentrer de façon propre, en fait, dans ces lieux-là, il y a des lieux qui sont ouverts temporairement lors de travaux, etc. Il faut ouvrir l'œil lors des travaux, hein. Souvent, des portes sont ouvertes qui sont d'habitude pas ouvertes. C'est un bon moyen d'accéder. Et je retrouve, oui, des choses dans lesquelles j'étais pas allé parce que c'était fermé, parce que ma curiosité m'avait pas repoussé là-bas. Je retrouve des choses, ouais. C'est là qu'on sent qu'on vieillit, en fait. C'est toujours là, mais soi-même, on vieillit. C'est rigolo. Vieillir à l'aune des caves de Clermont-Ferrand, quoi. Une échelle de mesure, ouais. C'est-à-dire accessibilité maximale dans les années 90, et puis qui va diminuant plus tard. Et puis moi-même, je me fixe maintenant des contraintes qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'avant, c'est-à-dire que je veux pas me mettre en défaut, tu vois, je veux pas fracturer. Moi, j'ai jamais rien volé dans les caves, par exemple, je suis pas un voleur, quoi. Il m'arrive d'emporter des petits souvenirs, mais c'est des choses qui n'ont aucune valeur. Pour me dire, j'étais passé là, je le faisais surtout sous Paris, d'ailleurs, je ne le faisais pas vraiment ici. J'ai jamais tagué non plus lourdement ou sur des surfaces qui peuvent le mériter, comme du béton ou du parpaing. Là, il n'y a pas de souci de taguer là-dessus. Mais j'ai laissé mon nom, quoi, hein, disons tout simplement. Sous Paris, on pose des tracts, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de communication souterraine où on laisse des informations sur ses déplacements, sur les fêtes qui sont organisées, ou même simplement pour parler de l'ambiance des catacombes. Ici, à Clermont, j'ai jamais vraiment fait ça, laisser de tracts, parce qu'il n'y a pas de réseau, parce que les gens ne circulent pas, quoi. Il n'y a pas de réseau, en fait, à Clermont. Les caves sont à la verticale des propriétés, en gros, et ne communiquent pas entre elles, à part quelques-unes où il y a eu des tout petits percements qui ont été effectués. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de réseau, en fait. On ne peut pas faire une grande ronde sous Clermont-Ferrand, passer d'un côté à l'autre de la butte, etc. Ça n'existe pas. Il y avait des gens qui parlaient à un moment donné de circuler en jeep ou à cheval de la cathédrale jusqu'au lycée Blaise Pascal ou Jeanne d'Arc, là, par là. Donc non, c'est pas possible. Déjà, géologiquement, c'est pas possible. Et puis ensuite, à quel effet, quoi ? T'imagines les efforts de construction pour quoi, en fait ? Parce qu'il faut bien se dire que l'homme, à chaque fois qu'il a fait des gros travaux comme ça, ça avait un effet, quand même, quoi. C'était pour servir à quelque chose, quoi. Et là, si c'est pour évacuer 2-3 curés, franchement... non, il n'y a pas de... Non, ça n'existe pas. Les seuls effets, c'est la peur, et la peur, c'était celle des bombardements durant la Seconde Guerre mondiale et des percements pour servir d'abri de défense passive. Et en fait, les percements sont compliqués, et même en cas de guerre et en cas de crainte, les gens restent propriétaires de trucs, et du coup, les propriétaires ne voulaient pas que ça perce. Donc non, il y a très très peu de choses. J'ai jamais tombé sur quelqu'un qui était déjà dans la cave. Les gens sont descendus parce que moi j'ai fait du bruit en descendant, mais après... Non, il n'y a pas de réseau. C'est très différent de Paris et de la cataphilie parisienne, de la vie des catacombes à Paris, où là, certains soirs, tu croises des centaines de personnes, en fait, et qui ne sont pas tous en train de faire la fête, d'ailleurs, hein, qui sont répartis dans le réseau qui est immense. Enfin, c'est 300 km de galeries à Paris, tu vois, ça n'a rien à voir avec... 300 caves de Clermont à la verticale, quoi. Tu croises personne par hasard dans les caves à Clermont, c'est sûr. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Sur les toits, pareil. Des fois, en montant sur le toit, tu fais du bruit, tu passes vers une porte, là, le mec sort et me dit, mais si vous foutez là, je dis, bah, je vais sur le toit, et puis il me dit, je peux venir avec vous. Je dis, bah oui, bien sûr, venez voir avec moi, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de croisement fortuit. C'est que des rencontres... Après, c'est pareil, je fais un peu moins ça qu'à une époque, le guide et tout. J'amenais beaucoup de monde à un moment donné, puis ça se tasse, hein, c'est vieillissant, hein, j'ai un peu moins envie de faire ça. Que les gens se fassent leur propre expérience. Moi, je suis déjà content de, tu vois, d'avoir des photos un peu de tout ça, de faire ce festival là avant l'été, la Länderfest. Je trouve ça sympa, tu vois, des gens, je fais descendre du monde et tout, c'est cool. Enfin, c'est une, voilà, c'est. On vieillit, quoi. C'est-à-dire que je fais les choses moins artisanalement qu'une époque, plus organisées. Il y a des moyens un tout petit peu différents, mais les finalités sont aussi différentes, quoi. Il y a pas grand-chose à faire dans ces lieux-là. C'est-à-dire qu'on peut pas les assainir complètement, les rendre habitables, par exemple. Tu vois, si les propriétaires étaient tous dans des quêtes d'habitabilité maximale, d'espace maximal de stockage, on peut difficilement stocker là-dedans, parce que c'est très humide, en fait. Si tu laisses des livres un mois là-dedans, ils sont tout pourris derrière, quoi. Enfin, c'est immédiat, quoi. Donc tu peux pas stocker grand-chose ici. Tu peux pas vraiment vivre dans des caves. Il y a certaines caves qui sont à un demi-niveau d'enterrement, c'est-à-dire qu'ils ont des petits exutoires au niveau du trottoir, par exemple, mais à hauteur d'homme, tu vois, c'est-à-dire que les yeux permettent de voir le trottoir. Celles-là sont relativement sèches, mais dès que tu descends un étage en dessous, c'est fini, quoi. Donc on peut plus. Donc il n'y a rien à y faire vraiment dans ces caves. Alors y maturer du fromage, oui, y garder du vin à température, oui, parce qu'elles ont une température relativement constante toute l'année. C'est des caves, quoi. Mais c'est bien à peu près tout ce qu'on peut y faire. Les assainir, ça a des coûts énormes parce qu'il y a beaucoup d'infiltration et d'humidité, donc il faut assécher tout ça et puis après vivre là-dedans, c'est même moins sympa qu'un habitat troglodyte ou tu vois. Donc on peut pas faire grand-chose en fait dans ces caves-là. Ce qu'on peut déjà faire, c'est les maintenir comme ça, dans cet état relativement bon, en sortir tous les détritus qui ont été jetés durant les Trente Glorieuses, là, parce qu'on trouve des vieux fours, on trouve des tas de charbon encore dans certaines qui sont en train de pourrir au fond, ou de la paille. La paille, ça servait à faire des étalages de fromage. Il y a beaucoup de caves qui ont dû servir à faire vivre du fromage. On trouve beaucoup, beaucoup de tas de paille là-dedans, en fait, dans les caves. Dans l'une d'entre elles, j'ai vu des œufs. Alors, je pense qu'il devait y avoir un poulailler au-dessus. Et les gens devaient stocker temporairement les œufs dans la fraîcheur relative de la cave. Ça permettait probablement de garder les œufs quelques semaines au plus, quoi. Et j'ai trouvé toutes les coquilles d'œufs. Je pense qu'il y avait vraiment un petit poulailler au-dessus. Donc, je ne sais pas de quand ça date précisément. Je ne sais pas exactement quelle était la vie de Clermont-Ferrand, d'ailleurs, au 18e, au 19e siècle, autour de la place de la Victoire, puisqu'on parle quand même que de ce lieu-là, quasiment. Hein. C'est vraiment le sommet de la butte qui est le plus percé de caves. Les quelques plans que j'ai de Clermont-Ferrand et des sous-sols, parce qu'il y en a quelques-uns quand même, notamment des caves des abris de défense passive estimés durant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai été vérifié que les creusements avaient été faits ou pas. Et donc t'as l'aplomb des rues, mais des fois t'as pas le numéro, t'as même pas le nom de la rue, c'est-à-dire que tu repères, tu vois, en fonction de l'orientation. Et oui, après tu trouves, enfin il faut absolument aller voir là, c'est sûr, là, ça excite considérablement ma curiosité, quoi. Quand j'apprends qu'il y a un trou quelque part, comme les glacières là de Clermont-Ferrand, il y a deux glacières au moins. Donc ça c'était des silos qui étaient donc maçonnés sur les côtés, dans lesquels on descendait de la glace des volcans et on pouvait la garder quasiment toute l'année. Alors après, bien sûr, ça, la glace fondait en hauteur, ça devait ruisseler à travers les murs, et puis plus la glace fond, plus il y a de l'eau, plus s'entraîne la glace qui fond. Donc je suis pas sûr que toutes les années ça, on pouvait conserver pareil, mais ça servait à conserver de la glace. Et donc il y a deux glacières comme ça, et je connaissais depuis très longtemps l'existence de l'une, mais l'autre j'ai appris que récemment, c'est pas vrai, mais il y a longtemps maintenant, mais j'ai appris plus tardivement l'existence de l'autre, et j'ai eu du mal à trouver où elle était, parce que justement elle était bien connue, celle-là, elle était fermée, très difficilement accessible, quoi. Donc ça c'est des silos, et on rentre par le haut en fait, donc il faut descendre en cordée où il y a une échelle, mais qui est à moitié rouillée, à moitié cassée. Ça fait 5-6 mètres de haut, 6-7 mètres de haut. C'est une forme de silo en fait, un large de 2,50 m. Alors le fond est à présent à peu près aussi sale que le reste des caves, c'est-à-dire que des choses ont été jetées dedans. Donc en fait tu rentres par le haut, donc dans une espèce de fenêtre qui fait 1,20 m de haut par 40-45 cm de large. Au milieu du haut de la citerne, il y a une poulie qui devait servir donc à monter des seaux de glace ou des seaux d'eau ou d'autres choses. Alors évidemment, c'est pas la poulie sur laquelle on s'accroche parce qu'elle est complètement rouillée, mais voilà, donc il faut descendre là-dedans. Bon, ça présente un intérêt très relatif une fois, hein, qu'on l'a fait une fois, mais c'est quand même marrant, quoi. C'est un lieu de stockage, voilà, de glace ou d'eau. Donc des glacières sous Clermont, voilà, il y a ça. Il y a aussi une légende qui raconte qu'il y avait une prison. En fait, des petits box en métal servaient à des prisonniers. Donc là, j'imagine même pas les conditions d'incarcération. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On raconte que les prisonniers avaient écrit sur les murs, etc. Mais est-ce que c'est effectivement contemporain de cette époque-là, ou est-ce que c'est des farces qui sont plus récentes, qui peuvent même avoir un siècle, hein? J'en sais rien. Quand on voit la maigreur des barreaux qui servaient à délimiter ces box, je suppose qu'aucun prisonnier un peu énervé n'aurait pas pu défoncer sa prison. Donc je pense que c'était plutôt des lieux pour déterminer des box pour les propriétaires, en fait, au-dessus. Il y avait plusieurs propriétaires au-dessus, donc il y avait 6 propriétaires, 6 box, il y a une logique à tout ça, quoi. Il y a des coins comme ça où les légendes courent un peu, mais ça reste léger, quoi. C'est, les gens se font plaisir à donner de la légende là où il n'y en a pas, en fait. Justement, le caractère ultra concret des caves, en fait, même voilà, le fait qu'on se rencontre aujourd'hui, ton questionnement sur les caves de Clermont-Ferrand prouve que tu as une curiosité pour celui-là. Cette curiosité, et elle est quoi cette curiosité? C'est laquelle cette curiosité? Est-ce que c'est simplement d'avoir un souvenir celui-là, de m'entendre parler de celui-là, ou tu as l'impression qu'il y a des vraies légendes et que je vais pouvoir expliquer ces vraies légendes? Alors, mon vrai boulot à moi, c'est de dire oui, tout ça c'est intéressant, mais en fait, il n'y a pas de légende en fait. C'est ultra concret les caves de Clermont-Ferrand. Tu vois, il n'y a presque pas de magie, quoi. La magie, c'est celle qu'on y apporte en y faisant des choses nouvelles en fait dans ces lieux-là. Et donner l'illusion que. Alors, c'est une démarche que je comprends, contre laquelle je ne suis pas contre. Hein. Encore une fois, je ne me place pas en juge là-dessus, mais. Dire que voilà, on peut aller de la cathédrale à Jeanne d'Arc en Jeep, que des armes ont été cachées, qui ont été retrouvées là au XXe siècle, qui étaient encore en état de fonctionnement, qu'on pouvait rejoindre la mairie depuis la cathédrale, que on pouvait traverser la butte de Clermont-Ferrand, ça sert en fait à maintenir un imaginaire vivace là-dessus, questionnant, intriguant, qui font qu'en fait les gens ont des caves, enfin la plupart des gens ont des caves, une vision complètement fantasmée, quoi. Une ancienne prison, voilà, on peut imaginer tout et rien. Après, je veux dire, des messes noires, des pendaisons en sous-sol, des crucifixions, enfin, tu vois, on peut faire des trucs comme ça. T'entretiens un effet de mythe, quoi. Et, en fait, il n'y a pas d'effet de mythe, quoi. Les caves, c'est vraiment. C'était creusé pour des raisons pratiques de stockage. Ça a été délaissé à partir du moment où on a considéré. Où les conditions de vie se sont améliorées, où on a eu des frigos, où on a eu des planchers chauffants, où on a eu des murs en béton et en enduit qui ne prenaient pas l'eau. Toutes les caves ont été délaissées, donc je dirais, moi, tu vois, je pense que l'utilisation des caves s'est globalement arrêtée après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quoi. À partir de là, le confort s'est tellement amélioré que les gens n'avaient plus rien à faire dans leurs caves, quoi. Les caves de Clermont, en tout cas, parce qu'elles sont trop insalubres, trop humides. Non, perdant leur fonctionnement, elles ont perdu tout intérêt, et on a refabriqué une espèce de mythologie sur les caves, de façon inconsciente, hein. On l'a refabriqué comme ça... Comment on n'y accédait plus, si tu veux, que c'était fermé, que voilà, plus personne n'y allait, on a dit qu'il doit se passer des trucs là-dessous, etc. C'était devenu intriguant. Et voilà, et moi, voilà. C'est-à-dire que passer cette période de questionnement du mythe, et pour les avoir beaucoup fréquentés, je peux rassurer ici tout le monde en disant qu'il n'y a absolument rien de particulier qui se passe là-dessous. Ce qui s'y passe de particulier, c'est ce qu'on y amène maintenant, ce qu'on y fait maintenant. Et on peut encore y faire des choses. Piégé à l'intérieur sans pouvoir sortir, non. Par contre, attendu à la surface, oui, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que des gens m'ont vu rentrer, ils ont appelé la police, et la police m'attendait tranquillement à la surface. Alors, en général, ça se passe bien, parce que déjà, je suis plus un adolescent, j'ai pas de bombe pour taguer dans mon sac, j'ai plutôt un appareil photo, des choses comme ça, quoi. Donc, en général, ça se passe bien. Je suis soumis à la question, on me questionne beaucoup sur qu'est-ce que je vais faire là-dedans, et puis j'ai à peu près les mêmes réponses que celles que je viens de te faire, c'est-à-dire que je vais juste circuler, voir ce qu'il en est. Je ne sais même pas faire un état des lieux, je n'essaie pas d'être exhaustif, je n'essaie pas d'être. Voilà, je n'ai pas cette volonté d'archivage qu'a la CAVIC, mais j'y vais simplement pour y aller, pour voir comment c'est. L'interdit, c'est un frisson quand même. Mais enfin, vieillissant, j'ai l'habitude et du coup, ça me fait moins frissonner. Mais si l'interdit, c'est toujours un peu plus rigolo. L'interdit, c'est. Bah, l'interdit, c'est plus ontologique, quoi. C'est-à-dire plus essentiel. C'est ce que je te disais tout à l'heure presque en préambule. Je supporte pas l'idée que je puisse pas aller dans des lieux. Voilà. Je puisse pas aller dans des lieux qui sont faits pour l'homme et par l'homme, quoi. Ça m'énerve. Donc je veux y aller, quoi. Si je ne sais pas ce qu'il y a, si j'estime qu'il y a quelque chose, je veux aller voir. Et l'interdit, si j'ai pas de solution officielle pour y aller, bah je me débrouille, quoi. Alors, encore une fois, dans des limites que je me pose moi-même, qui sont de pas fracturer, pas défoncer les serrures, etc. Mais ça peut passer par lever une plaque ou descendre un rappel, par exemple, tu vois. Même dans Clermont, ça m'est arrivé déjà. Lever une plaque d'égout, et sous cette plaque d'égout, c'est pas des égouts, en fait, c'est un bord de cave. Vous passez par un soupirail, là, au bord du trottoir, en l'ouvrant, simplement, il est pas bien fermé. Voilà. Oui, c'est sûr que l'interdit, c'est plus grisant, quoi. Il y a plus d'excitation.
J'aime bien passer vite, en fait. Passer vite, voir, passer vite, et puis hop, revenir de temps en temps.